Pour moi, je fus envoyé aux îles, et j'eus même un petit grade parmi les captifs mes camarades. On m'appelait « Monsieur le lieutenant ». Je les morigénais assez bien, et je faisais ainsi la cour à notre conducteur. J'acquis sa confiance et la haine de mes confrères qui machinèrent de m'étouffer. Heureusement, je fus averti de leur complot. Je profitai de l'espèce de liberté dont je jouissais pour m'échapper. Je fus aperçu par une négresse, elle me promit le secret. Cependant, sachant combien peu l'on doit compter sur cette espèce, je l'obligeai de m'accompagner jusqu'à un bois. Elle m'y servit de guide, et quand nous fûmes prêts à en sortir, je la tuai d'un coup de couteau entre les deux épaules, pour plus grande sûreté. J'eus le bonheur de trouver un vaisseau prêt à repasser en France. Je me présentai comme mousse. J'étais petit, puisque je ne suis pas grand, fort noir, puisque je le suis encore. On me prit pour un enfant de matelot, et comme on avait extrêmement besoin de monde, on ne fut pas difficile sur les informations. Arrivé à Bordeaux, j'écrivis à mes parents un récit à ma fantaisie de ce qui s'était passé, leur assurant que nous avions fait naufrage. On m'envoyait de l'argent, je désertais, et j'arrivai chez nous un soir, fait à effrayer. On m'éloigna sur le champ de Paris, en m'obtenant une petite commission aux aides. Tu entendras dire qu'on m'avait envoyé aux îles parce que j'avais volé 10 louis en or dans le secrétaire d'un ami de mon père. Mais cela est faux. Quand j'ai volé, c'était mes parents, ou tout au plus leurs servantes, que je mettais à contribution. Quant aux 10 louis, s'ils ne se sont pas retrouvés, ce n'est pas ma faute. Je m'en vanterais si je l'avais fait, parce que j'aurais eu des motifs, comme par exemple de mortifier mon père, qui allait toujours disant qu'il était un honnête homme. Cela m'ennuyait et me donnait comme des nausées. Mes petits escamotages chez mon père avaient souvent occasionné du bruit. C'était la seule chose dans laquelle ma mère ne me soutint pas. Je cherchais depuis longtemps une occasion de prouver à mes parents qu'ils pouvaient être volés par d'autres. J'épiais surtout les servantes. J'aurais été charmé d'en faire expédier une pour rendre ma justification plus célèbre. L'occasion s'en présenta même. Une jeune fille, assez gentille, laissa prendre quelque chose, et je l'accusais de l'avoir volé. Mes parents ne me croyaient pas, et ils se regardaient comme sûrs que j'avais moi-même pris ce qui ne se retrouvait plus. Ils me le dirent très durement, et je m'emportais. Cependant, la fille était au désespoir. Elle vint un jour me trouver dans ma chambre, dans un moment où mes parents étaient sortis. « Pourquoi voulez-vous me perdre ?» me dit-elle. « Que vous ai-je fait, monsieur ?»«
Tu es une coquine, et je sais que tu es coupable. »«
Je ne le suis pas, en vérité, croyez-moi. » »«
Tu l'es. »«
Non, en vérité, monsieur, je n'ai rien pris. »«
Si tu veux que je te croie, tu es jolie, il faut... »
La fille voulut résister.
Je lui donnai un soufflet qui la renversa, et je lui déclarai que si elle ne cédait pas, j'allais m'y crier et dire à tout le monde que je la venais de prendre sur le fait à me voler.
Elle fut si effrayée qu'elle céda. Tandis que je m'amusais d'elle, mon père et ma mère rentrèrent. Ma mère vint se jeter sur moi. Je lui dis « Que voulez-vous ? Elle m'a offert sa personne pour la cacher dans ses vols et j'ai succombé. » Ma mère me crut et voulait faire arrêter la fille. Mon père s'y opposa. Il prit la fille en particulier avec ma mère et l'interrogea. Elle dit la vérité. Cependant, on n'était pas sûr. Mais mon mauvais ange fit que j'avais été entendu par deux voisines qui entrèrent quand elles s'aperçurent que j'avais été surpris, ce qu'elles comprirent en me voyant sortir tout en colère. Elles vinrent tout déclarer à mes parents. Mon père était furieux, ma mère, convaincue, ne savait que dire pour me défendre. On renvoya la fille en la payant bien, et l'on en prit une vieille et laide. J'étais enragé de mon mauvais succès. Une des deux voisines qui avait parlé contre moi, car ma mère me les nomma, avait un père âgé, qui demeurait à 3 lieues de Paris. Il vint un jour pour la voir. J'étais chez le perruquier quand il passa. un garçon dit « Tenez, voilà le père de mademoiselle Rosette, il va voir sa fille. » Je sortis. Je montai dans l'escalier, sur les pas de cet homme, qui venait voir sa fille pour la première fois depuis qu'elle avait loué dans la maison. Il entra chez nous en se trompant. Il avait tourné la clé, et parvenu au milieu de la première pièce, il regardait s'il reconnaîtrait les meubles de sa fille. Lorsque je me jetai sur lui en criant « Au voleur !» je le renversai d'un coup de poing, je l'assommai, le foulai aux pieds toujours en m'écriant. Mes parents, qui étaient chez une voisine, accoururent. Ils me trouvèrent sur le misérable qu'on ne reconnut pas et qui ne pouvait parler. Il fut porté à l'Hôtel-Dieu et ne put s'expliquer que le lendemain. On sut alors qu'il était le père de la petite fleuriste, mademoiselle Rosette. J'avais triomphé auprès de ma mère en lui disant « Vous voyez bien qu'on vous vole et vous m'accusez ensuite pour avoir plutôt fait parce que mon père me déteste. Sans moi, vous étiez pourtant volé. » Elle avait dit comme moi. Mais quand on sut qui était l'homme, ce fut autre chose. Il fallut assoupir l'affaire en donnant de l'argent à Rosette pour qu'elle soulageât son père et gardât le silence. Le bonhomme mourut au bout de 3 jours et je fus vengé. Ce fut alors que mon père déclara qu'il ne voulait pas me garder à la maison. Il voulait me faire renfermer. Mais ma mère obtint, par le moyen d'un parent, un petit emploi en province dans les aides. C'est là que je me suis donné carrière. C'est un charmant état pour un jeune homme que celui de commis aux aides. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire impunément. Il peut battre, guetter, assassiner, faire des faux. Pourvu qu'il montre du zèle pour les droits de la ferme, tout lui est permis, même ce qui ne regarde pas les intérêts de ses commettants. On appelle cela un sujet précieux, et on fait tout pour le conserver. J'en ai eu la preuve dans une occasion. Je m'étais distingué, dès mon installation, par une sorte de fureur contre les paysans fraudeurs. Je passais des nuits pour les guetter. Je les surpris. Je fis des procès-verbaux. J'obtins des condamnations. Ma réputation parvint, par mon directeur, jusqu'aux fermiers généraux. Je reçus une gratification et un avancement. Mon emploi n'était que de 600 livres. J'en eus un de 1000 francs. C'est à cette époque que, me trouvant dans la ville d'A, je rencontrai le facteur de la poste. Je lui demandai s'il avait des lettres pour moi ou mes confrères. « Mes lettres sont par ordre, me dit cet homme. Quand je serai dans votre quartier, je les trouverai à leur place s'il y en a et je les remettrai à la maison. » Je voulus l'obliger à défaire son paquet. Il s'y refusa. Nous nous disputâmes, et comme c'était un manant, il me dit des injures. Je lui passai mon épée au travers du corps. Je fus obligé de m'enfuir. La ferme me soutint parce que j'étais un sujet précieux, et mon affaire s'accommoda. Il est vrai que l'homme n'en mourut pas. Il en coûta 2000 écus à ma famille. Je fus alors dans la ville de S., où je continuai à faire le bon valet. Je ne fus pas aussi heureux qu'à A. Une nuit, je fus surpris et battu à me laisser pour mort. On me rapporta chez mon hôtesse, qui me soigna fort bien, ainsi que sa fille, jeune personne assez jolie, appelée Madelon Détroche. Ma convalescence fut longue, mais enfin, je me fortifiai assez pour sentir que Madelon était aimable. Je lui fis ma cour. Elle rit d'abord de ma déclaration. Je m'enhardis et elle se fâcha. Cette rigueur me donna des soupçons. Je l'épiai et je m'aperçus qu'elle avait un galant aimé. J'étais alors guéri et je sortais. Je publiai partout que Madelon n'était pas sévère, que je l'avais eue et que je ne voulais plus d'elle parce que je l'avais surprise en flagrant délit avec telle. Je nommai son galant. Ces bruits vinrent à l'oreille de la mère et de la fille. Elles furent toutes deux très en colère contre moi, surtout la vieille Détroche, qui résolut de me punir et de se venger. Pour cela, elle vint un matin dans ma chambre, tandis que j'étais encore au lit. Sans préambule, elle jeta la couverture et les draps aux pieds, et, déployant une poignée de verges, elle commença à me fouetter de toutes ses forces. Je ne savais où j'en étais, étant à peine éveillé. J'entendais seulement que la vieille dame me disait « Mauvaise langue, gueux, ingrat que j'ai soigné, tu parleras mal de ma fille !» Je me reconnus enfin, et m'élançant à terre, je sautai sur la vieille que je désarmais. J'allais lui rendre ce qu'elle m'avait prêté, quand sa fille, qui probablement écoutait à la porte, entra, munie d'un manche à balai, avec lequel elle m'émoustilla les épaules. Je quittai la mère pour me jeter sur la fille. Je renversai celle-ci. La mère courut chercher du secours. Pendant ce temps-là, voyant l'occasion belle, parce que la fille était suffoquée de colère, je lui pris ce qu'elle m'avait refusé. La mère revint à ses cris. Je me trouvais assailli par les deux à la fois, mais, quoique petit et grêle, je parvins à les mettre hors de ma chambre. La mère avait ressaisi le manche à balai. Je le pris par le bout, et, le courbant entre les jambes de la fille, je fis tomber celle-ci avec tant de force qu'elle s'ouvrit la tête contre l'angle d'une marche. Je profitai du trouble pour m'échapper. Je fus envoyé à T quand on sut que la fille n'en reviendrait pas. On craignait de perdre un sujet précieux. Il n'y avait qu'environ 3 mois que j'étais à T quand j'y devins amoureux de la fille d'un menuisier. Elle était jolie, mais sans fortune. Un garçon perruquier la recherchait auparavant. Mais ses parents, ayant entendu dire que j'étais fils unique de gens comme il faut, ils me préféraient. Le frater et la fille, qui étaient d'accord, résolurent de me faire expliquer. Il fut même convenu entre eux que si je tendais au mariage et que la chose fût possible, le raseur se retirerait. Ce garçon vint donc me trouver, un jour que j'étais à la promenade. Il m'aborda poliment. « Monsieur, me dit-il, vous rendez des visites à Mademoiselle Julien ?»« Oui, qu'en est-il ?»« Rien, monsieur, mais je lui en rendais avant votre arrivée dans le pays. Cependant, comme je suis raisonnable et que vous êtes un meilleur parti que moi, je vous céderai la place si vos vues sont comme les miennes. »« Et quelles sont vos vues ?»« Mais d'épouser Mademoiselle Julien ?»« Il ne faut rien y changer, mon ami. » Je m'amuserai et tu épouseras quand ma fantaisie sera passée. » Le frater prit mal cette réponse noble et fière. Il fit un geste. Je tirai mon épée et je lui en portai un coup qui lui coupa un nerf, un tendon, je ne sais quoi. Il est resté la tête tournée sur l'épaule, de sorte qu'il a le visage en face de son omoplate. Je ne saurais m'empêcher d'en rire à présent. Mais alors, je fus encore obligé de m'enfuir et mes parents de payer. Néanmoins, mes commettants me firent avoir un autre emploi, mais inférieur. Il n'était que de 500 livres à CH sur S. C'est dans cette dernière ville que j'ai donné le meilleur soufflet qui puisse partir de main d'homme. J'avais un talent particulier que j'avais appris en Amérique de crever le cœur au ventre en me battant. Cela m'était souvent arrivé avec les paysans fraudeurs, dont plusieurs sont morts des coups que je leur ai donnés, quoiqu'ils ne paraissent pas de blessures. La manière de donner ce coup est d'employer le pouce d'une certaine façon en frappant au corps. Il pénètre entre les côtes et blesse les parties intérieures. Cela est très utile en Amérique, et dans les batteries où les rats de cave, au nombre desquels j'étais, se trouvent souvent compromis avec des gens grossiers et beaucoup plus forts qu'eux. Pour en revenir à mon fameux soufflet, j'étais un jour à la messe dans un village où il y avait souvent de la fraude et rébellion. J'avais été rossé, mais j'avais envoyé à Patres le plus terrible des paysans par ma science au coup de poing. Le vicaire, surtout, dont le défunt était l'ami, m'en voulait beaucoup. Il arriva que, pendant la messe, derrière le maître autel où j'étais, les jeunes gens badinaient avec les quêteuses parce que cet endroit était caché. Je crus pouvoir faire comme les autres. Je voulus prendre de l'eau bénite au béniquet de la plus jolie, qui me donna un soufflet et alla se plaindre. Tout devait finir là, mais le vicaire m'envoya l'ordre de le sortir de l'église. Je n'en fis rien. La messe achevée, je le trouvai sur mon passage, en dehors, ayant encore l'aube sur le corps. Lorsque je fus à sa portée, car je ne l'évitais pas, il me donna un soufflet en me disant « Si Jésus-Christ chassa les vendeurs qui profanaient le temple à coups de fouet, que doit-on faire au profanateur le plus indigne ?» Je remontai 3 marches et j'assommai mon homme si fort que je le renversai du coup. Il alla tomber à 10 marches. Il n'en est pas revenu. Et c'est le 5e ou 6e à qui j'ai fait mordre la poussière. Il fallut déguerpir bien vite. Je me sauvai à Paris. Par un bonheur inouï, je n'étais pas connu par mon nom dans ce village et le directeur esquiva les informations. On comptait m'employer encore. Mes parents financèrent et ils obtinrent le silence à force d'argent. Mais cette dernière aventure les épuisa. Il leur en coûta la moitié de leur fortune. Encore ne parurent-ils pas, et mon nom ainsi que mon pays sont toujours restés ignorés. De retour à Paris, je me trouvai enfin tranquille. Mon imagination se calma. Je sentis du goût pour la vie paisible. Je voyais la gêne où mes folies avaient réduit mon père. Je lui promis de me bien comporter. On me fit avoir un emploi dans un des bureaux semblables à celui dont M. Moresquin était chef. Je parus d'abord assez bien répondre aux vues de mes parents. On fut content de moi. Il faut dire que j'étais devenu amoureux, et dans ces occasions, je suis capable des plus grands efforts sur moi-même. C'est comme lorsque je suis devenu amoureux de toi. Il n'est rien que je n'eusse fait pour donner bonne idée de moi à ton père s'il avait voulu me voir et m'entendre. Il est vrai que je me serais ensuite moqué de lui, mais qu'importe. Je ne l'en aurais pas moins adroitement trompé. Il y avait, dans la rue et la maison que j'habite aujourd'hui, une femme, ancienne amie de mon père, qui avait une nièce fort aimable. Dans notre enfance, on nous appelait le mari et la femme, et la jeune Manette, en grandissant, n'avait perdu ni le souvenir ni le goût de ses amusements de notre enfance. Je lui étais cher, et elle conservait ce sentiment au fond de son cœur. Mon père, et surtout ma mère, voyant une apparence de changement dans ma conduite, en étaient comblés. Ils parlèrent de moi à la tante de Manette comme d'un jeune homme sur lequel la raison commençait d'opérer. « Nous désirerions bien, dit ma mère, profiter de ce moment pour le marier. Une femme aimable et qui l'aimerait achèverait de le ranger. » La tante savait les dispositions de sa nièce. Elle approuva ma mère. « Ce n'est pas tout, ajouta Madame Moresquin. C'est de vous, madame, que dépend notre tranquillité. Je suis sûr que votre nièce est, de toutes les femmes, celle qui aurait le plus de pouvoir sur mon fils. Il l'aime. » « Et elle ne le hait pas, dit la tante. « Ah, voilà un grand bonheur, reprit ma mère. Plût à Dieu que nous puissions terminer un si beau projet de mariage en 8 jours. » « Cela serait un peu trop prompt, répondit la tante, mais, s'il faut vous dire la vérité, je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle de la part de ma nièce, ni de la mienne. Ainsi, ne nous précipitons pas, et laissons nos jeunes gens se fréquenter un peu. » Ma mère ne goûta pas trop ce retard, ni cette fréquentation. Non qu'elle présumât ce qui devait arriver, au contraire, mais elle craignait qu'en me connaissant mieux, Manette ne changeât à mon égard, ou que je ne fisse quelque escapade, ou qu'enfin, des gens qui s'intéresseraient à elle ne l'instruisissent si bien qu'ils ne l'effrayassent sur ma conduite et sur mon caractère. Rien de tout cela n'arriva. J'étais aimé, je le vis, et dès que j'en fus sûr, je pris avec Manette le ton qui me convenait, celui de maître. Plus je l'affectais, plus elle paraissait contente. Elle se soumettait à toutes mes volontés avec un plaisir sans égal. Je crus alors que je pouvais tout oser. Je voulus que ses faveurs précédassent le mariage. Ma promise s'y refusa. Mais je lui signifiai que si elle n'y consentait pas, et que si elle ne me donnait pas sur elle le droit de lui faire des reproches un jour, je croirais qu'elle ne m'aimait pas, et que jamais je ne lui serais rien. Elle céda enfin à cette menace. Et, dès qu'elle eut cédé, je la menais comme il convenait. Je me fis même prier pour l'épouser, et je n'y consentis qu'autant que la tante me donnerait, à moi en propre, un bien qu'elle possédait en Normandie, aux Andelys. Il fallut qu'elle souscrivit à ma demande, car je lui signifiai que sa nièce était grosse et que je m'enfuirais en Angleterre si les choses n'allaient pas à ma fantaisie. Ce fut donc moi qui fus son donataire, de sorte que je suis le propriétaire absolu de tout ce que m'apporta ma femme. J'en ai disposé à sa mort, et j'en disposerai encore par la suite. On t'a dit que ma première épouse avait été heureuse. Tu peux en juger par ce commencement. Elle avait un commerce de marchande lingère que sa tante lui remit. Elle travaillait et soutenait la maison indépendamment de mon emploi. Ce que je pouvais gagner ne servait qu'à mes menus plaisirs, et souvent ma femme y ajoutait. Mais j'avais soin de tenir la main haute. Au moindre manque de complaisance ou d'égard, je souffletais, et j'ôtais ainsi l'envie de recommencer. À la vérité, Manette devint mélancolique, mais elle était soumise et souriait dès que je l'ordonnais. La tante seule se permettait quelquefois des observations, mais je les recevais de manière à les rendre modérées. Car lorsqu'elles étaient trop vives, une paire de soufflets appliqués à la nièce rendait la tante souple comme un gant. Tu vois que j'étais le plus heureux des hommes. J'avais une femme qui faisait aller la maison. J'étais maître absolu. Tout tremblait devant moi. Mais ma femme était d'une santé délicate. Elle tomba malade et je ne pouvais me persuader que ce fût sérieusement. Pour essayer si un peu de rigueur lui ferait prendre sur elle-même, un matin qu'elle se plaignait plus qu'à l'ordinaire, je hasardai de lui donner deux soufflets. Elle se tut. Je sortis ensuite, presque sûr de la trouver debout à mon retour. Je ne revins que le soir. Elle était à l'agonie, et elle expira après m'avoir baisé les mains. Je ne m'attendais pas à ce coup. J'étais furieux contre la tante, que je traitais fort mal, l'accusant de n'avoir pas soigné sa nièce. Ma mère la malmena aussi. Cette femme nous répondit à tous deux très insolemment. J'en étais si outré qu'en arrivant à mon bureau, je fis à mes confrères la promesse solennelle de leur payer un bon dîner le jour qu'elle irait rejoindre sa nièce. Je ne languis que 15 jours dans cette espérance. Je payai le dîner de bon cœur. Mais le receveur des tailles, mon commettant, ne trouva pas cette action belle parce qu'il ignorait mes motifs. Je fus remercié, ce qui m'a fait beaucoup de tort, vu que depuis ce moment, je suis sans emploi. Car il ne faut pas compter l'occupation que m'a donnée un receveur de capitation. Il ne le fit que pour attraper mon père, au cas où il aurait voulu s'informer si j'avais un emploi. Par tout ce que je viens de te conter, tu vois que je ne suis pas un gaillard qu'on mène. Ainsi, le conseil que j'ai à te donner, c'est de charroyer droit, car je suis accoutumé à dominer, à ne jamais être contredit, à être servi par une femme à pied baisé. Songe aussi à t'occuper utilement et à faire venir l'argent à la maison, n'importe comment. C'est tout ce que j'ai à te dire. Il est 3 heures. Mon récit a été long. Je vais me coucher. Bassine mon lit. Telle fut la confidence que me fit Moresquin. Je n'en garantis pas l'entière vérité. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il avait un plaisir infini à se targuer des crimes les plus atroces et que sa conduite postérieure va prouver qu'il était capable de les commettre. La scène infâme devant ses amis était souvent répétée avec des circonstances un peu différentes. C'était journellement, en présence des libertins de sa connaissance, des discours et des descriptions à faire horreur. Je recevais journellement un soufflet, un coup de poing, où j'avais la chair des bras tordus. Sans le récit que Moresquin m'avait fait des beaux faits de sa jeunesse, j'aurais été dans un étonnement profond. Mais je trouvais sa conduite toute naturelle, parce qu'il était un scélérat. Je n'en étais pas moins au désespoir d'en être la victime.